I was busy thinking about boys, boys, boys. I was busy dreaming about boys, boys, boys.
Bienvenue dans ce deuxième épisode de Sérendipité. Si le mois dernier j'évoquais l'invisibilité des cow-boys noirs, aujourd'hui j'avais envie de parler d'un autre genre de cow-boys qui brise les codes. Les cow-boys qui se débattent avec leur masculinité toxique et qui proposent des parties de pêche entre amis. Les cow-boys qui déboutonnent leur chemise et se glissent dans le duvet de leur compagnon une fois venue la nuit. Vous reconnaissez peut-être l'histoire de Jack Twist et Ennis Delmar, les deux protagonistes du film Le secret de Brokeback Mountain. Si ça ne vous dit rien et que vous aimez les romances grand public, vous devez absolument le regarder.
Je vais te demander un truc. T'as vu toi le film à la télé hier soir, Brokeback Mountain?
Non, j'ai pas le droit de regarder la télé. Ma mère trouve que c'est abruti. Mais ce qui paraît, c'est un super bon western, non?
C'est pas un western.
C'est quoi?
C'est genre... C'est un western PD.
Ça, c'est le début d'un court-métrage assez rigolo qui s'intitule « Ce n'est pas un film de cow-boy », dans lequel Vincent résume à Moussa le film qu'il a regardé hier soir à la télé. Et puis, ben, ça l'a bien remué. Moi aussi, ça m'avait bien remué, et depuis que j'ai vu Le secret de Brokeback Mountain, j'ai développé une sorte de passion pour les films d'amour mettant en scène des hommes gays. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, j'ai peut-être quelques petites idées. Moi, le premier film qui m'avait bouleversé, c'était « Ceux qui m'aiment prendront le train ». C'était le film préféré de ma mère, et elle le regardait au moins 37 fois par an, allongée sur le canapé, épuisant les paquets de Kleenex de la maison tellement ça la faisait pleurer. C'est sûrement le premier film que j'ai dû voir qui parlait frontalement d'homosexualité. C'est le premier film que j'ai vu qui montrait des hommes s'embrasser, se toucher. Il y en a même qui se plottaient dans les chiottes du TGV. Toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai un poster géant de Brokeback Mountain accroché au-dessus de mon lit. Un peu pour rigoler, mais pas que. Dernièrement, j'ai regardé une mini-série très très gay qui s'appelle Fellow Travelers. Aux États-Unis, Fellow Traveler, c'est un terme qui désignait les personnes sympathisantes du régime communiste. Alors, c'est quoi le rapport entre les romances gays et les communistes, me demanderez-vous? Eh bien, dans les années 50, aux États-Unis, ça avait tout à voir et on va découvrir pourquoi.
Hi Skippy, Skippy, Skippy,
Skippy,
Skippy, Skippy. Nice to see you, Skippy.
Who's Skippy?
That's what I'm gonna call you. It suits you. Like the glasses.
Je vous résume l'histoire. Fellow Travelers raconte en 8 épisodes la relation passionnelle, comprenez franchement torride mais quelque peu toxique, entre deux hommes dans l'Amérique puritaine des années 50 et jusqu'aux prémices du sida. Tim, alias Skippy, et Hawk ont tous les deux une carrière politique. Hawk a une position importante au sein du département d'État, et Skippy, fervent catholique et anticommuniste convaincu, travaille pour le redoutable sénateur Joseph McCarthy. Les deux beaux et faibles démarrent une relation secrète et se font tout du long de la série de gros, gros, gros bisous.
What if you were to let me kiss you? Would that be mortal or venial?
Mortal. Pretty sure. Why can I never say no to you?
I'm irresistible. Come here.
On comprend rapidement qu'à l'époque, ce n'était pas franchement accepté. D'autant plus lorsqu'on travaillait pour le gouvernement, mieux valait rester caché. Cela pose de base une énorme tension, et si on y ajoute la fameuse dynamique où il y en a un qui en veut toujours plus que l'autre, alors je vous avoue que les bisous sont d'autant plus torrides. Hawk, il a un peu le charisme de Don Draper dans Mad Men. Mâchoire carrée, épaules carrées, c'est un type élégant et viril au style vestimentaire impeccable. Quand il déboutonne sa chemise, on se dit que son torse est anachronique car forcément taillé dans une salle de sport. Ça, c'est une des choses chiantes de la série. Les deux garçons que l'on voit régulièrement sous toutes les coutures sont abusivement musclés. Bref, ça ne m'a pas non plus empêché d'apprécier les scènes où il se trimballe en débardeur blanc et caleçon chaussettes. Hawk tient une position sociale confortable et il veut continuer de gravir les échelons. Mais pour cela, il ment à son entourage en jouant les célibataires dédiés à son travail pour mieux cacher sa double vie et ses désirs pour les hommes, qui sont pourtant 100% assumés une fois la nuit tombée. Tim, tout autant irréalistement musclé que Hawk, est jeune, candide et à certains égards assez conservateur. Il s'entiche très vite de Hawk, malgré le détachement fin de ce dernier, relation toxique remember. Il boit du lait aux soirées, confesse régulièrement ses péchés et a peur d'aller droit en enfer pour avoir couché avec son amant.
I hope you burn in hell.
Voilà, ils sont très différents et tous deux complètement imparfaits. Hawk est protecteur et aimant, pragmatique et clairvoyant, mais son ambition sociale le fait se mentir à lui-même et se comporter comme un lâche piétinant le cœur de Tim, ce gentil garçon timide, noble et droit, qui n'a Dieu que pour son amant. Tim, lui, se révèle autant passionné et dévoué à Hawk qu'il est aveuglément convaincu par les idées nauséabondes et discriminantes du sénateur McCarthy qu'il adule.
You like working for your hero?
The Washington elite look down their noses at McCarthy, and I know his tactics are rough. But the Soviet threat is real, and so is the atomic bomb. And yes, I am happy working for him.
Les deux acteurs ainsi que le réalisateur sont tous les trois ouvertement gays dans la vie, ce qui donne une forme d'authenticité et de la valeur au récit amoureux. D'ailleurs, les rôles secondaires sont aussi joués par des acteurs queer. Alors, ce n'est évidemment pas pour les scènes de sexe à haute tension que j'ai continué à regarder Fellow Travelers, mais bien évidemment pour le thriller historique qui se joue en parallèle. Tim travaille donc pour le sénateur McCarthy. Le McCarthyisme, ça vous évoque sûrement quelque chose. La chasse aux sorcières menée contre les communistes, et notamment les communistes infiltrés au sein des institutions américaines, et donc soupçonnés d'espionnage.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire des Rosenberg. Julius est-elle un couple d'Américains accusés d'espionnage, condamnés à mort, puis exécutés? Une affaire devenue le symbole de l'hystérie anticommuniste des années 50 aux États-Unis.
Cette histoire-là, elle est assez connue. Julius et Ethel Rosenberg ont été arrêtés et jugés pour espionnage en 1950. Résultat, ils seront tous les deux exécutés sur la chaise électrique. Cette sentence est emblématique de la politique de persécution mise en place durant cette période. Elle est menée, ou tue du moins popularisée, par Joseph McCarthy.
Et Joe McCarthy, ce sénateur du Wisconsin, allait dans les années 50, c'est-à-dire en pleine époque de la guerre froide, déclencher ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières. C'est-à-dire une fantastique campagne qui s'étend à l'époque sur tout le territoire des États-Unis et qui a pour but d'éliminer tous ceux qui, dans le domaine politique, culturel, artistique, peuvent être soupçonnés d'être ou d'avoir été communistes ou bien d'avoir des idées progressistes qui autorisent à les considérer comme des agents ou comme des espions à la solde des soviétiques.
Cette chasse aux sorcières est aussi connue sous le nom de Red Scare, la peur rouge. McCarthy va tyranniser toute une société en passant les trois quarts de son temps à véhiculer des fausses informations. Il aurait soi-disant une liste de noms de sympathisants communistes et donc de potentiels traîtres travaillant au sein même des institutions gouvernementales. J'ai regardé un très bon documentaire sur Arte qui s'appelle « McCarthy, itinéraire d'un opportuniste », qui démêle les enjeux politiques de l'époque et qui retrace le parcours de cet ambitieux sénateur du Wisconsin. Écouter sa rhétorique basée sur la terreur, la pure calomnie, la manipulation de l'opinion publique, découvrir les mensonges et les stratégies mises en place dans le seul but de se construire une notoriété est très intéressante lorsqu'on les compare à celles d'autres politiciens actuels, de préférence puritains et de droite.
In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
People of Springfield, please don't eat my cats. Why would you do that? Eat something else.
Bah oui, Trump et McCarthy, ils se roulent un peu dans le même terreau. Bon, McCarthy racontait certainement moins de conneries et avait vachement moins de pouvoir, mais restez accrochés, on va retrouver Donald d'ici quelques minutes par une passerelle incroyable qui n'inclut malheureusement aucun dodo avec des cow-boys.
Shit, boy.
Vadim, il est convaincu que les communistes méritent d'être débusqués et il soutient à 100% son sénateur McCarthy chéri. Jusqu'à ce qu'il se retrouve coincé lorsque l'hystérie ambiante autour des communistes s'étend à une autre frange de la population. En effet, une autre vague de persécution a lieu à cette époque, et elle est menée par les mêmes protagonistes, travaillant au sein de la même administration et chapeautée par le même sénateur.
Motherfucker.
Cette vague-là, elle est moins connue, mais on l'appelle la Lavender Scare, et elle concerne la communauté queer. On en entend moins parler, mais les homosexuels, ils ont été sévèrement inquiétés durant la guerre froide. En fait, tout comportement jugé déviant était traqué, et donc tous les potentiels queers étaient persécutés. À l'époque, l'homosexualité était encore considérée comme une maladie mentale. Et du coup, les fonctionnaires fédéraux, gays, lesbiennes, trans et moult autres choses, étaient soi-disant susceptibles d'être soumis au chantage des espions soviétiques. Voilà donc le prétexte pour entamer une chasse aux queers. On comprend mieux pourquoi Hawks se crée toute une façade lisse, hétéronormée et que ses activités nocturnes restent au placard. Pour creuser un peu le sujet, j'ai regardé le documentaire The Lavender Scare qui parle de cette période méconnue de l'histoire de la guerre froide. Le documentaire met notamment en avant les actions militantes de Frank Kameny. Retenez bien son nom parce que c'est un des pionniers du mouvement pour les droits des homosexuels aux États-Unis. Il a été directement victime de cet acharnement contre les gays et les lesbiennes en perdant son poste d'astronome au sein de l'armée en raison de son homosexualité. Dans Fellow Travelers, on ne suit pas que Tim et Hawk. Il y a un autre couple victime de la tyrannie ambiante à travers lequel on découvre ce qu'est l'intersectionnalité. Il s'agit de Marcus et Frankie. Marcus Gaines est un jeune journaliste noir et gay qui mène un combat pour les droits civiques, notamment grâce à sa plume. Il tombe sous le charme de Frankie, drag queen militante, qui vient agiter sous son nez qu'il n'est pas seulement victime de racisme, mais aussi d'homophobie. Homophobie qu'il a certainement lui-même intériorisée. Une autre relation belle, complexe et imparfaite dont on se délecte dans cette série. Alors, si j'en reviens à McCarthy, ce dernier va trop loin dans son délire de chasse aux sorcières en cherchant sans succès à démasquer un réseau d'espionnage au sein de l'armée. Grossière erreur que de vouloir s'attaquer à l'armée américaine. S'ensuit donc un procès entre McCarthy et l'armée qui va faire apparaître un autre personnage, Roy Cohn.
You cannot hurt Roy Cohn. He's just invulnerable because he recognizes that the more publicity he gets, no matter what the publicity is, he benefits.
You know what the article says, you never mess with Roy Cohn.
As long as a few people believe it.
Roy Cohn, c'est l'avocat et bras droit de Joseph McCarthy. C'est le personnage le plus vil et tyrannique de la série. D'ailleurs, c'est lui qui a mené les époux Rosenberg à la chaise électrique. Alors lui, c'est vraiment le personnage qui m'a le plus marqué. En fait, j'avais pas bien compris en regardant la série qu'est-ce qu'il manigançait, de quoi il était accusé, s'il était lui-même un homosexuel caché et refoulé. Et en creusant, j'ai compris que Roy Cohn, il avait mené une politique d'austérité à l'encontre des homosexuels alors que lui-même avait des relations avec des hommes. Ce dernier est mort du sida en 1986. Pas de bol. Comme à l'époque c'était la communauté gay qui était largement touchée par cette épidémie foudroyante, Roy a fait passer sa maladie pour un cancer du foie. Et il n'en démordra pas jusqu'à sa mort.
When I talk to friends and tell them that I am doing a profile of Roy Cohn, they say, ask him this, please. Do you have AIDS?
Oh, no. That's easy to answer.
The reason I ask is that in researching...
You feel that much public curiosity as to whether I had AIDS?
That is the question that everybody asks.
That's amazing.
You know, of course, why people ask about AIDS and Roy Cohn.
Sure.
Because they believe that you're a homosexual.
I do not have AIDS.
Where, Roy, do all these stories come from?
Oh, it's a cinch, Mike. Take this set of facts. Bachelor, unmarried, middle-aged. Then all the stories go back to the McCarthy Shine days.
Il y a une autre série le mettant en scène datant de 2005 qui s'appelle Angels in America. Bon, moi j'ai trouvé la série hyper chelou car très théâtrale. Mais c'est assez drôle de voir Al Pacino hurler sur tout le monde et passer 90% de son temps pendu au téléphone à triturer tous les boutons pour passer d'une ligne à l'autre. Des films, des séries, des documentaires sur Roy Cohn, il y en a pléthore. En fait, quand j'ai commencé à me documenter sur lui, je me suis rendu compte qu'il n'avait jamais quitté la scène du business et de la politique. Son mantra, c'était « fake it to make it », faire semblant pour réussir. Et il n'a cessé d'agir en arrière-plan et toujours au profit des pires scélérats. À commencer par le père et le fils Trump. D'ailleurs, le récent film The Apprentice, c'est pas vraiment un film sur Trump. Hein. C'est plutôt un film qui met en lumière le rôle de conseiller et de mentor qu'était Roy Cohn pour Trump.
Donald Trump et Roy Cohn se rencontrent au moment où les Trumps sont coincés dans une affaire fédérale. Ils sont accusés de faire preuve de discrimination à l'égard des locataires noirs. Donald, la vingtaine, embauche alors Roy Cohn, la cinquantaine, réputé pour être un avocat qui triche allègrement avec les règles. Ils perdront le procès, mais Donald gagnera un ami, un conseiller, un mentor. Roy Cohn, il fait rentrer Donald dans la haute société new-yorkaise, dont il ne faisait pas partie jusqu'ici. Il l'emmène chez Brioni pour s'acheter des costumes. Il l'invite dans ses soirées border dont les thèmes pouvaient être « Si vous êtes inculpé, vous êtes invité ». Pendant 15 ans, Roy Cohn va être l'homme dans l'ombre de Donald Trump. Avant que leur relation prenne fin au milieu des années 80.
Ce qui m'a frappé lorsque j'ai fait mes recherches, c'est que si vous regardez les toutes premières vidéos de Donald Trump, début des années 80, fin des années 70, il parle lentement, il parle clairement, il ne crie pas comme dans les meetings qu'il fait aujourd'hui. Je pense que, sans aucun doute, Roy Cohn est la personne qui a eu le plus d'influence sur la vie de Donald Trump, en particulier au cours de cette période. Roy Cohn est devenu l'avocat de Trump, mais plus que ça, il est devenu son mentor et une sorte de figure paternelle qu'il a présenté à toutes les personnes puissantes de New York. Il lui a enseigné la stratégie et sa technique pour vaincre, qui consiste à suivre ces trois règles, attaquer, nier et ne jamais admettre la défaite. Je pense que toutes ces leçons que Roy Cohn a enseignées à Trump dans les années 1970, il les utilise aujourd'hui en tant qu'homme politique.
Un autre de mes plaisirs coupables, c'est d'écouter le podcast Scandale, réalisé par Marion Galli-Ramouneau. Bon, grosso modo, c'est un podcast sur les stars, les people et les personnalités publiques. Ce sont des portraits qui montrent l'envers du décor du star system. Bon, alors, c'est produit par Madame Figaro, hein, alors le ton est plutôt léger, les infos sont parfois un peu superficielles, voire franchement racoleuses, mais du coup, c'est assez prenant. Un peu comme une bonne vieille série qu'on aurait un peu honte de regarder. Parfois, c'est assez poussé, comme les trois épisodes qu'elle a fait sur Donald Trump, dont on vient d'écouter un extrait. Moi, j'ai appris pas mal de trucs sur lui, et je sais pas si c'est intéressant de connaître la vie des riches, mais ça donne l'ambiance de quelque chose qu'on ne goûte pas. You're eating the dogs. Pour finir, j'aimerais bien vous conseiller de lire un livre qui s'appelle « L'Éden à l'aube » de Karim Khatan. C'est un roman qui raconte l'histoire de Isaac et Gabriel, deux Palestiniens qui se rencontrent à Jérusalem et tombent amoureux. Le narrateur de l'histoire, c'est le ciel. C'est très poétique et aussi un peu chaotique. Tout est beau et doux, et pourtant on sait que ces deux hommes vivent dans un pays entravé. C'est sous-jacent, c'est présent, mais pas tout le temps. Juste c'est là. Comme leur histoire. Ce livre est sorti récemment, mais il a été écrit avant les événements actuels. C'est aussi doux que la main de Jack dans le duvet d'Ennis, et ça m'a fait beaucoup de bien. I wanna see pom-poms from the stands. Come on, come on. My
fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump, I know you're Forrest. I know you wouldn't hurt a beetle, but you're so buff and so strong. I'm nervous, Forrest. Forrest Gump, my fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump, I saw you game, Forrest. I was screaming, run 44, but you kept running past the end zone. Oh, where'd you go, Forrest? Forrest Gump, my fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump, forest green, forest blues. I'm remembering you. This is love, I know it's true. I won't forget you. Come.